Imaginons la scène. Mettons qu'on se trouve sur les tatamis, peut-être en plein entraînement chez vous à l'école Jiu-Jitsu Saguenay. L'intensité est vraiment à son comble.
Ouais, la sueur, le bruit, tout ça.
Exactement. Puis là, d'un bord, t'as un coach qui crie à son élève « Fais le balayage, va chercher le renversement ». Puis de l'autre côté de la salle, un autre instructeur hurle plutôt, ressent son transfert de poids, écoute sa pression.
Deux ambiances complètement différentes.
Tellement. En apparence, ben, ça ressemble juste à deux simples conseils de coaching lancés dans le feu de l'action. Mais bon, décortiquons tout ça.
J'adore quand on fait ça.
Parce qu'en réalité, ces deux phrases-là déclenchent des processus neurologiques qui sont complètement différents dans le cerveau d'un combattant.
Absolument.
Quand on demande de chercher une technique spécifique versus quand on exige de ressentir une pression, on fait appel à deux mécaniques d'apprentissage qui n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. Aujourd'hui, on plonge là-dedans, dans cette espèce d'illusion pédagogique.
C'est un excellent point de départ pour notre exploration d'aujourd'hui. L'objectif de notre analyse, dans le fond, c'est de poser un cadre didactique vraiment rigoureux pour décortiquer cette distinction fondamentale en apprentissage moteur.
Ouais, la fameuse différence entre l'intention et l'attention.
Exact. La différence entre l'éducation de l'intention et l'éducation de l'attention. L'intention, pour faire simple, c'est le but recherché. C'est le fameux « quoi faire » comme passer une garde ou appliquer une clé de bras.
Le plan de match, genre.
C'est ça. L'attention, en revanche, c'est ce que le système nerveux doit absolument percevoir dans l'environnement pour savoir quand et comment agir. Le gros problème sur les tatamis, c'est qu'on peut avoir la meilleure technique du monde de façon théorique.
La technique parfaite sur papier.
Mais si on ne perçoit pas la fenêtre d'opportunité exacte pour la lancer, ben cette technique-là, elle est tout simplement inutile.
Puis pour vraiment saisir la racine de tout ça, il faut faire un saut dans le temps. On va rendre hommage à une véritable géante de la science. Quand on parle de psychologie écologique, on entend souvent le nom de James Gibson.
Toujours, oui.
Mais aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur Eleanor J. Gibson. Loin d'être reléguée au simple statut de femme de, elle a été une pionnière redoutable.
Une chercheuse incroyable, vraiment.
Mettons ça en perspective un instant. On parle d'une femme qui a obtenu son doctorat à l'université Yale dans les années 1930.
Ce qui n'était pas rien à l'époque.
C'est le moins qu'on puisse dire. À une époque où les portes des laboratoires scientifiques étaient lourdement verrouillées pour les femmes, elle a défoncé ces portes-là. Elle a mené des recherches si fondatrices qu'elle a fini par recevoir le National Medal of Science en 1992.
C'est quand même la plus haute distinction scientifique aux États-Unis.
Exact. C'est du sérieux.
Son parcours est remarquable, puis sa persévérance a complètement transformé notre compréhension de l'apprentissage. Sa contribution la plus marquante, celle qui a véritablement secoué le monde de la psychologie, c'est la fameuse expérience de la falaise visuelle.
Ah oui, en 1960. L'expérience avec les bébés?
Oui.
L'expérience avec les bébés sur la vitre de verre. C'est quand même fou de se dire qu'on a placé des nourrissants au-dessus de ce qui ressemblait à un vide. Comment ça fonctionnait exactement, cette installation-là?
Le dispositif était vraiment brillant de simplicité. On plaçait des nourrissons, généralement âgés de 6 à 14 mois, sur une grande plateforme en verre super robuste.
Et donc, aucune chance de tomber?
Non, c'était très sécuritaire. Sous cette plaque, la surface était divisée en deux. D'un côté, un motif à carreaux très contrasté était collé directement sous le verre. Ça donnait l'illusion d'un sol ferme et solide.
Comme un plancher normal.
Exactement. Puis, de l'autre côté, ce même motif à carreaux était placé beaucoup plus bas, à 1 mètre de profondeur environ. Visuellement, ça créait l'illusion parfaite d'un précipice, d'une falaise abrupte.
Un gros trou noir, genre?
Ouais, alors que physiquement, la surface en verre continuait d'être parfaitement pleine et sécuritaire.
Donc, techniquement, le bébé pouvait ramper sur la vitre sans aucun danger.
Absolument. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la grande majorité des bébés refusaient catégoriquement de s'aventurer du côté du précipice visuel.
Ah, wow!
Même lorsque leur propre mère se tenait de l'autre côté et les appelait avec un jouet, les nourrissons s'arrêtaient au bord de l'illusion. Certains se mettaient même à pleurer de frustration.
Ce qui prouve que la peur du vide, ou en tout cas la perception de la profondeur, c'est pas quelque chose qu'on leur a enseigné. Un bébé de 6 mois, ça n'a pas lu de manuel sur la gravité?
Non, clairement pas. Je dirais plutôt que ça prouve que la perception de la profondeur est intrinsèquement liée à l'action. Ce que les recherches ultérieures ont montré, c'est que cette capacité à percevoir le danger n'apparaît pas par magie à un âge précis.
OK, ça vient d'où alors?
Ça émerge dès que le nourrisson commence à ramper et à se déplacer activement par lui-même. C'est là le cœur de la découverte. Il y a un couplage indissociable entre le mouvement et la perception.
Mouvement et perception marchent ensemble.
Exact. On a longtemps cru que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur passif. Genre d'abord, il perçoit son environnement, il analyse, puis ensuite il décide de bouger. Gibson a prouvé que c'est l'inverse. L'humain doit bouger pour générer ce qu'on appelle un flux optique. Et c'est ce mouvement qui lui permet de percevoir son environnement.
Bouger pour percevoir, c'est une notion qui bouscule pas mal de choses. Puis si on ramène ça à l'apprentissage d'un sport complexe, comment cette idée-là a évolué, hein? Parce que Gibson ne s'est pas arrêté en 1960.
Non, pas du tout. C'est son ouvrage de 1969 qui contient vraiment la clé pour comprendre ce qui se passe chez les athlètes. Elle lui avance une théorie révolutionnaire. L'apprentissage perceptif n'est pas un processus d'addition.
Pas une addition.
Non, on ne construit pas une image mentale de plus en plus riche dans notre cerveau en accumulant des détails. C'est plutôt un processus de différenciation.
Une différenciation. OK, attends. C'est comme le vin, non?
Comment ça?
Bien, la première fois qu'on goûte du vin rouge, ça goûte juste le vin rouge. C'est astringent, puis c'est tout. Puis à force d'en boire, avec les années, on commence à percevoir les tanins, l'acidité, les notes de fruits rouges.
Oui, je vois.
Le vin n'a pas changé dans le verre. On n'a rien ajouté, mais notre palais s'est différencié pour capter ce qui était déjà là depuis le début.
C'est une super belle analogie. En apprentissage moteur, c'est exactement la même mécanique. Le système nerveux apprend à filtrer ce qui est inutile pour ne garder que l'information pertinente.
Ça me fait penser à ce qu'on vit lors des premiers mois en arts martiaux. Au début, c'est le chaos total. On regarde deux ceintures noires rouler ensemble sur le tatami, puis qu'est-ce qu'on voit?
Juste des pyjamas qui roulent.
Exact. Un enchevêtrement de jets, des bras et des jambes qui s'entremêlent à toute vitesse. C'est comme regarder une vieille télévision à tube cathodique des années 80 qui capte mal le signal. Tout est flou, il y a de la neige à l'écran.
Ouais, beaucoup de bruit visuel.
Mais avec l'expérience, le cerveau passe en résolution 4K. Soudainement, dans ce même enchevêtrement, les détails sautent aux yeux. On voit une pression subtile sur la nuque, une hanche qui se décale d'un pouce. Le combat n'a pas ralenti, c'est notre perception qui s'est affinée.
C'est vrai, mais je nuancerais un peu ton analogie de la télé 4K.
Ah ouais, pourquoi?
Parce qu'elle sous-entend que tout devient super net. Or, la différenciation, c'est encore plus puissant que ça. C'est pas que l'image globale devient plus claire, c'est plutôt comme si le cerveau se mettait à appliquer un filtre qui assombrit tout le reste de la pièce.
OK. Pour mettre en lumière un seul truc.
Exactement, pour mettre un gros projecteur rouge uniquement sur l'information cruciale. Le système nerveux d'un expert supprime activement le bruit de fond. Parce que sur un tatami, l'environnement est saturé de données. La couleur de la ceinture, la texture du tapis, le chronomètre, la soie.
Si le cerveau essayait de traiter tout ça consciemment, il surchaufferait en 10 secondes.
Précisément, et c'est ce qui nous amène à redéfinir le concept d'attention. En psychologie écologique, l'attention, c'est pas un effort cognitif. C'est pas genre je fronce les sourcils puis je me concentre très fort.
C'est quoi donc?
C'est une calibration précognitive. Le débutant a son attention captée par des variables non pertinentes. Le visage de son adversaire ou le fait qu'il est super grand.
Des trucs qui l'aident pas à se battre.
Voilà. Le pratiquant avancé, lui, a recalibré son système pour capter automatiquement ce qu'on appelle les invariants et les affordances.
Attends, on va s'arrêter là-dessus une seconde.
Oui.
Une affordance, OK. C'est quoi exactement dans le feu de l'action d'un combat?
Une affordance, c'est une opportunité d'action qui est offerte par l'environnement. Par exemple, si l'adversaire penche légèrement son poids vers l'avant.
OK.
Mais cette posture-là, elle offre la possibilité d'un renversement papillon. L'affordance n'est pas une pensée, c'est une invitation physique que le corps perçoit directement.
Le corps réagit tout seul?
Oui. L'expert se dit pas « Ah, oh, son centre de gravité vient de dépasser sa base de support, je devrais utiliser la technique numéro 4 ». Non, son système nerveux perçoit l'affordance puis il déclenche le mouvement.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça met en lumière le grand drame des pratiquants intermédiaires.
Le fameux plateau.
On peut avoir une excellente intention. Savoir exactement quel clé de bras on veut faire, on connaît toutes les étapes par cœur. Mais si notre attention n'est pas éduquée pour capter cette fameuse affordance-là, on va essayer de forcer la technique au mauvais moment.
C'est le diagnostic parfait du syndrome de la ceinture bleue. Ils ont le dictionnaire des techniques en tête, l'intention est là, mais l'attention est désynchronisée.
Ils essaient de faire rentrer un carré dans un cercle, dans le fond.
Exactement, ils forcent.
Ce qui m'amène à me poser une question assez critique sur la façon dont on enseigne les arts martiaux. Quand on regarde la pédagogie traditionnelle, la structure classique de 90 % des cours, Le prof réunit tout le monde, montre une technique, l'explique en 5 étapes chronologiques.
1. Je prends le col. 2. Le pied sur la hanche.
Ouais, 3. On pivote. Puis ensuite, tout le monde répète ça 50 fois sur un partenaire qui bouge pas d'un pouce. Est-ce que cette approche-là serait pas fondamentalement incomplète, voire un peu paresseuse, en se concentrant juste sur le quoi faire? On délaisse totalement l'éducation de l'attention, le quand puis le quoi ressentir.
Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot paresseuse.
Non?
Non, parce qu'enseigner l'intention de manière découpée, ça répond à un vrai besoin de logistique. C'est propre, c'est quantifiable, ça rentre super bien dans une grille de cours de 60 minutes.
C'est facile à gérer pour un prof qui a 40 élèves.
Exact. Mais tu as raison sur un point crucial. C'est dramatiquement incomplet. Les études en apprentissage moteur le prouvent. Saturer l'apprenant d'intentions mécaniques, ça crée des pratiquants pataux, rigides, qui agissent complètement hors tempo.
Des robots, quoi.
Des robots. À l'inverse, imaginons une école qui ferait juste du sparring libre, sans aucun but technique.
Ça serait le chaos.
On développerait des athlètes hyper réactifs, capables de sentir tous les déséquilibres, mais dépourvus d'arsenal pour finaliser. L'expertise absolue, c'est vraiment le mariage des deux. Une intention claire qui est continuellement guidée et modulée par une attention finement calibrée.
D'accord. La théorie est fascinante, mais ramenons ça sur la terre ferme. Comment on règle ce problème-là concrètement sur les tatamis? Mettons qu'un instructeur cherche à éduquer l'attention de ses élèves, c'est quoi la boîte à outils pédagogiques?
Le premier outil et le plus fondamental pour le système nerveux, c'est l'exposition variée à travers le jeu sous contrainte.
Le jeu sous contrainte.
Oui, l'éducation de l'attention nécessite de vivre plein de situations où les éléments cruciaux sont présents, mais enrobés dans un chaos différent à chaque fois.
Fait qu'au lieu de faire 50 répétitions parfaites d'un passage de garde.
Exactement. Le coach met en place un jeu de sparring spécifique. Par exemple, l'élève au-dessus peut juste utiliser ses mains sur les genoux de son partenaire, puis celui du dessous essaye de déséquilibrer.
OK, donc le but, c'est pas d'exécuter une belle technique.
Non, le but, c'est d'obliger le cerveau de l'élève à chercher l'information pertinente en temps réel. L'équilibre, le transfert de force, le système perceptif est forcé de se calibrer.
Et c'est là que le deuxième outil entre en jeu. C'est probablement mon préféré à observer. Les indices verbaux perceptifs.
Ah oui, très puissant.
J'ai remarqué qu'un coach vraiment élite sur le bord du tapis, il crie presque jamais de mécanique corporelle en plein milieu d'un round.
Non, c'est trop lent.
Il crie pas « plie ton genou à 90 degrés, rétracte ta scapula ». Il va plutôt hurler des affaires comme « sens son poids sur ta jambe droite » ou « écoute sa respiration, attaque sur son expiration ».
C'est parce que ce coach-là comprend intuitivement le rôle des invariants. Dans ton exemple, il n'explique pas une technique. Il agit exactement comme un pointeur laser perceptif.
Un pointeur laser. J'aime l'image.
L'élève est perdu. Son attention est captée par la couleur du gi ou la force des mains de l'adversaire. C'est du bruit inutile.
Oui.
Le coach utilise ses mots pour prendre l'attention de l'élève puis la pointer directement sur l'invariant crucial. L'information physique qui indique avec certitude l'état du système, comme la répartition du poids. Dès que l'élève ressent ce poids, le corps sait naturellement comment compenser.
Ce qui nous connecte directement au troisième outil qui s'appuie sur une littérature scientifique assez massive. Les travaux de la chercheuse Gabrielle Wolfe.
Oui.
Elle a pensé sa carrière à étudier le focus attentionnel, c'est ça.
Tout à fait. Et les résultats de Wolfe sont sans appel depuis plus de 20 ans. En apprentissage moteur, adopter un focus externe est largement supérieur à un focus interne.
Juste pour clarifier pour tout le monde, on parle de se concentrer sur l'extérieur de soi-même par opposition à penser à ses propres muscles.
C'est ça. Le focus interne, c'est quand l'attention est dirigée vers la mécanique du corps. Contracte tes abdominaux, pivote tes hanches, tend ton bras.
Très analytique.
Le focus externe, c'est quand l'attention est orientée vers les effets du mouvement dans l'environnement. Au lieu de dire « casse ton coude », un coach de basket veut dire « vise le fond du filet ».
Ou au golf, pensez à la trajectoire du club plutôt qu'aux épaules.
Exactement.
Mais neurologiquement, pourquoi le focus externe donne des meilleurs résultats? Est-ce que c'est juste psychologique ou il y a un mécanisme concret en dessous?
C'est très mécanique, en fait. Ça repose sur ce qu'on appelle l'hypothèse de l'action contrainte. Quand on demande à un athlète de penser à l'angle de son coude, on force le cortex préfrontal à s'immiscer dans la gestion du mouvement.
La partie consciente du cerveau.
Oui, la partie très analytique. Le problème, c'est que la coordination motrice, elle, est gérée de manière subconsciente et incroyablement rapide par d'autres régions du cerveau. En imposant un contrôle conscient, on crée des interférences. Le mouvement devient saccadé.
Robotique, comme on disait tantôt.
On vient de court-circuiter le pilote automatique, dans le fond.
Exactement. Alors que lorsqu'on donne une cible externe, par exemple en arts martiaux, dire « conduis son épaule droite jusqu'à la ligne rouge du tapis » au lieu de dire « pousse avec tes triceps »,
le corps gère le reste.
Le système moteur subconscient est libre de s'auto-organiser de la manière la plus fluide possible pour accomplir cette tâche-là. Le corps humain est une merveille de résolution de problèmes physiques, à condition qu'on ne le micromanage pas. C'est fascinant de voir à quel point le vocabulaire du coach dicte le fonctionnement du cerveau de l'athlète. Puis un quatrième outil dans la boîte, peut-être un peu plus chirurgical, pour débloquer quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à percevoir le bon timing. L'utilisation du contraste.
Oui, le rétablissement de l'attention par le contraste, c'est l'un des moyens les plus rapides de forcer la différenciation de Gibson dont on parlait au début.
Comment ça marche en pratique?
Si un apprenant est incapable de sentir ce qu'est un état de déséquilibre chez l'adversaire, tu peux lui expliquer pendant des heures sur un tableau blanc, ça ne changera absolument rien. L'approche écologique consiste à lui faire ressentir par un contraste brutal.
Un peu comme chez l'optométriste, quand on te met les lunettes puisqu'on demande c'est mieux le 1 ou le 2. L'alternance super rapide fait sauter la différence aux yeux.
C'est une comparaison très juste. Sur le tatami, le coach veut demander au partenaire de s'avancer juste assez pour être vulnérable. La cible est accessible.
OK.
Puis il lui demande de reculer de 2 cm. La cible ne l'est plus. On fait basculer les labs entre la présence de l'affordance puis son absence de façon répétée.
Puis le cerveau capte la différence.
Le cerveau humain est une machine à détecter des différences. Ce contraste-là force le système perceptif à calibrer la limite exacte entre la sécurité puis le danger.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour la réalité quotidienne de votre pratique sportive? On a parlé de tatami, mais cette théorie-là semble déborder largement le corps des arts martiaux.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, on réalise que cette mécanique est au cœur de toute véritable expertise. Prenons l'exemple d'un maître artisan ébéniste qui passe la paume de sa main sur une planche de bois brut. Voit la densité, le grain, les micro-imperfections du matériau que nous, on ne sentirait même pas. Pensons à un médecin urgentiste chevronnier.
Oh oui, eux, ils scannent vite.
Il entre dans une salle d'attente, jette un seul regard global, puis il perçoit immédiatement quel patient est en détresse respiratoire critique, bien avant de consulter les moniteurs.
Ou un musicien professionnel qui entend un décalage rythmique de quelques millisecondes qui nous échappe totalement.
Dans toutes ces disciplines, l'expertise, c'est pas le simple téléchargement d'un dictionnaire de connaissances dans le cerveau. C'est une transformation littérale et profonde de la perception.
Fait qu'un expert ne fait pas que savoir plus de choses. Il vit littéralement dans un monde différent, où les informations sensorielles sont plus riches et infiniment plus précises.
C'est la définition même de la maîtrise. Puis ça s'obtient pas en lisant des livres, mais par un compagnonnage assidu avec l'environnement, sous la supervision d'instructeurs qui guident constamment cette attention.
Ce qui nous permet de distiller tout ça en quelques règles concrètes pour vous qui enfilez votre jus plusieurs fois par semaine. Comment on intègre cette science-là dans la sueur de l'entraînement?
C'est la question clé.
Premièrement, la patience est de mise. La calibration du système perceptif, le fameux passage de l'image floue à la haute définition, ben ça demande des années d'exposition.
Il faut pas se décourager.
Exact. Ne pas voir les opportunités d'attaque après 6 mois de pratique, c'est pas un échec personnel ou un manque de talent. C'est juste le délai neurologique normal de l'apprentissage perceptif.
Deuxièmement, la variété est non négociable. S'entraîner avec des partenaires de taille, de poids et de style différents, c'est la seule façon de garantir que le système nerveux ne surcalibre pas ses réponses pour un seul type de corps.
Troisièmement, il faut changer la façon dont on écoute ses entraîneurs. Quand un coach crée un indice sensoriel comme « sans sa posture », il faut réaliser que ce n'est pas de la poésie ou une métaphore de maître d'arts martiaux.
Non, c'est très littéral.
C'est une clé de calibration neurologique brute. Il faut rediriger son attention vers cette sensation précise, à cet instant précis. Et quatrièmement, la question est posée avant chaque ronde d'entraînement libre. Quel est l'objectif des 5 prochaines minutes?
Très important de se poser la question.
Est-ce que c'est un round d'intention où le but est d'imposer un passage de garde spécifique ou est-ce un round d'intention où le but est purement de ressentir les moments où l'autre part son équilibre sans même chercher à en profiter?
Séparer ces objectifs-là permet de diminuer la charge cognitive. Le cerveau apprend beaucoup plus vite quand il n'essaie pas de résoudre l'équation de la perception puis celle de la finalisation en même temps.
Voilà qui met un terme à cette analyse en profondeur sur l'attention et l'intention. Lors de notre prochaine exploration, qui va venir clore ce grand cycle thématique d'ailleurs, on va s'attaquer à un mythe absolument massif dans le monde du sport.
Oh oui, un gros morceau!
L'idée de la technique parfaite. On va décortiquer pourquoi la quête d'un mouvement exécuté de manière stérile et identique à chaque répétition, ben c'est un mirage. Pire, pourquoi c'est dangereux? On va découvrir le concept de variabilité fonctionnelle.
Et comprendre pourquoi faire des erreurs et embrasser le chaos, c'est l'unique façon de rendre un mouvement transférable face à un adversaire qui résiste.
Exactement.
Et pour nourrir les réflexions d'ici là, cela soulève une question importante qu'on a peine effleurée aujourd'hui.
Vas-y.
Si notre système perceptif se calibre de manière aussi chirurgicale en fonction de l'environnement régulier qu'il rencontre, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on choisit de s'entraîner inlassablement avec les 3 ou 4 mêmes partenaires favoris au club, semaine après semaine?
Ouf! Bonne question.
Ne risque-t-on pas de développer un système nerveux tellement spécialisé pour ces 3 personnes-là qu'on devient littéralement aveugle aux mouvements inédits puis au rythme étrange d'un inconnu lors d'une compétition? C'est le paradoxe de la spécialisation perceptuelle.
Un magnifique piège de la zone de confort. Une belle réflexion à garder en tête lors de votre prochaine session d'entraînement libre, au moment de choisir avec qui tourner sur les tatamis. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, aiguisez vos perceptions et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos découvertes.